peine de faire son malin. Mais que se passe-t-il ? On croit rêver. Ils discutent. Ils papotent. La fenêtre côté patager est ouverte et le gaillard y tend une clope. Il rigole, se check du coude. Et qu'entend-on ? Merci, chef. Bon courage, chef. Chef ? C'est à n'y rien comprendre. À moins que ce soit lui qui nous observe, lui qui nous traque, à moins que ce soit à cause de lui tout ça, à cause d'eux, ces flics zélés qui nous empêchent de tout, alors que les nouvelles admissions à l'hôpital sont au plus bas depuis un mois, alors qu'il fait beau dehors, alors que toute l'Europe s'apprête à déconfiner, qu'on peut à nouveau rendre visite à nos vieux, alors qu'il faudrait qu'on nous donne un peu de mou sous peine de nous rendre fous. Ils sont toujours là, à verbaliser, à nous emmerder, à nous juger, alertés par des immondes délateurs, bandes de capots. Heureusement que nos grands-parents résistants pendant la guerre ne sont plus là pour constater comme l'histoire repasse ses plats les plus moisis. Triste Belgique.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin le 36e jour. Mardi 21 avril, il est midi. Léa et Antoine sont à table. Léa est de mauvaise humeur. La baguette, c'est de la baguette d'il y a deux jours. Elle la trouve trop molle et trop sèche. Le jambon, c'est de la saloperie en plastique mort qui ferait devenir végétarien n'importe quel boucher d'abattoir. Il est déjà cette heure-là et il faut qu'elle se grouille. Elle ne peut pas être en retard à sa caisse du Delesse. Mais, pour détourner l'expression maison, aujourd'hui, elle n'a pas le lion dans le ventre. Et si tu n'y allais pas ? Demande Antoine. « Oui, c'est ça, répond Léa. On fait les fous, on laisse tout tomber, et puis on prend un train couchette, on part à Venise, et quand on revient, on vit sur tes 1 000 euros, comme si on avait gagné au loto ?»« Bah ouais, dit Antoine. La Dolce Vita, quoi. Monsieur est trop bon, mais monsieur, ne vois pas que j'ai pas le cœur, là, à ça. Mais tu pourrais peut-être avoir le cœur à fêter les bons chiffres, par exemple, répond Antoine. C'est la première bonne nouvelle depuis plus d'un mois de mauvaises nouvelles. Pour un peu, j'irais même acheter du champagne. T'as pas le fric, rétorque Léa. Et elle se met à pleurer. Antoine pense « Encore ?» Il n'ose pas lui dire, mais les filles qui pleurent, il n'a pas le mode d'emploi. Pour lui, les filles qui pleurent, c'est comme des mini-incendies qui se déclarent sans crier gare. Ça le fait paniquer et il ne sait pas comment faire. Mais Léa double la mise, elle est sur les gros torrents. Elle lâche tout, elle ouvre la grande vanne. Antoine se lève de table pour l'enlacer, mais elle le repousse. Et entre ses sanglots, elle dit « Laisse-moi, je comprends plus, j'étais pas comme ça avant. » Et elle lui dit tout. Elle dit qu'elle sait qu'il pense encore à son comportement lorsqu'elle a refermé la porte sur Smensk quand il était en train d'asphyxier sur le palier et qu'il avait besoin d'aide. Elle sait qu'il se demande si elle est une bonne personne à travers les larmes, les mots déformés passent comme des grimaces sonores. Mais Antoine entend parfaitement. Elle dit qu'elle sait qu'il lui en veut parce qu'elle a foutu à la porte Julien, l'ambulancier. Elle sait qu'il ne comprend pas. Elle sait qu'il se demande pourquoi il reste avec elle. Elle dit « Je suis pas conne, je vois bien que tu m'en veux, mais pourquoi tu restes si tu m'en veux ?» Et Antoine, qui est arrivé à passer la barrière et à la prendre dans ses bras, lui explique doucement « C'est pas toi qui es comme ça, je le sais. C'est ce virus qui te fout la trouille et te fait faire des choses que tu ne ferais jamais. Pour le moment, il y a plein de gens qui font des trucs qu'ils ne feraient jamais en temps normal. Regarde, il y en a qui font des masques alors qu'ils ne savent pas coudre. Il y en a qui dénoncent alors qu'ils ne savent pas ce que c'est la solitude. Le mec qui attend en bas en fumant des clopes, c'est un flic que les voisins ont appelé pour dire qu'on ne respectait pas les mesures de confinement parce que je ne suis pas domicilié ici. Peut-être. Je n'en sais rien. Il pense quoi ? Qu'on organise une fête clandestine à deux, tu sais quoi ? Qu'est-ce que j'aime faire l'amour avec toi ? Et qu'est-ce que c'est une fête de t'avoir rencontré ? Ne t'en fais pas. C'est beau, ça. Ne t'en fais pas. Et Léa, qui a arrêté de pleurer, répond : Tu n'as pas peur, toi ? De quoi ? De ne pas retrouver ta vie d'avant. Antoine sourit. Tu veux vraiment ouvrir maintenant le débat entre vie d'avant et vie d'après ? Tu es certaine qu'on a le temps ? Je propose qu'on fasse ça ce soir. Léa conclut : Comme tu veux. Je t'avoue que j'avais d'autres plans pour ce soir, mais si tu veux, oui, on fera ça.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin le 37e jour. Mercredi 22 avril, Claire a ouvert grand les fenêtres de l'appartement comme il fait beau dehors. Ça fait entrer de la lumière et puis il est indispensable d'aérer ces pièces qui semblent avoir connu un confinement largement préalable au 17 mars dernier. Elle est presque arrivée au bout du tri qu'elle a imposé aux affaires de son père en quelques années. Derek a accumulé un nombre incalculable d'objets, de babioles, de souvenirs. Il y avait dans ce trois pièces de quoi remplir une maison de plusieurs étages. À croire que cet homme que tout le monde avait abandonné trouvait dans cette accumulation une source de réconfort. Dommage qu'il ne soit plus là. Un psy en aurait sans doute fait un joli cas d'école. Elle a utilisé quasiment tout un rouleau de sac poubelle pour se débarrasser de ses encombrants, comme elle les a appelés. Et tant pis pour les objets auxquels son père tenait ou qui avaient pour lui une signification particulière. Pour elle, ce n'est que du brol. Les garder ne le fera pas revenir. Hier matin, elle a reçu le colis qu'elle avait commandé. Le type de la poste avait l'air épuisé, ils ont papoté, mais pas très longtemps. Il lui a demandé si le Smensk qui habitait ici était le même que celui qu'il avait vu il y a longtemps sur un ring. Et elle lui a répondu que oui, c'était son père, mais qu'il était mort de cette crasse. « Oh, je suis désolé, madame. Il faut signer là, s'il vous plaît. » Il portait un masque qui serait sûrement recalé à l'examen de conformité des masques que tout le monde devra utiliser dans pas longtemps. « Vous vous appelez comment ?»« Diogène, madame. Quand vous repasserez dans le coin, Diogène, venez me dire bonjour, j'aurai un truc pour vous. » Elle a sorti la machine du carton et s'y est mise tout de suite. Les bouts de tissu étaient prêts depuis 2 jours et ce qu'elle avait appris des tutos glanés sur le net, elle l'avait bien en tête. L'idée lui a traversé l'esprit après avoir trouvé 3 caisses oubliées dans le fond d'un placard. Elles étaient fermées par de larges bandes adhésives sur lesquelles quelqu'un avait écrit « Smensk » à la hâte. Elle avait failli les jeter, mais s'était ravisée. Elle avait bien fait. En les ouvrant, Claire a eu la surprise d'y trouver des t-shirts encore emballés dans leur plastique portant tous l'inscription « The Beast ». Son petit cœur a pincé. Sans doute à l'époque était-il vendu aux fans de Smensk après ses combats. 3 caisses de t-shirts, tout ce qu'il reste d'une carrière de lutteur. L'album Stage de Bowie passe en boucle pendant qu'elle travaille à la table du salon. Elle l'a trouvé dans les CD de son père. Il avait décidément bon goût, ce type, finalement. C'est peut-être le meilleur album du Duke, que des classiques, dans des versions à tomber. Claire n'a pas vu le temps passer. Au début, c'était un peu compliqué, mais après quelques approximations, ses gestes sont devenus plus sûrs. En début de soirée, elle a mis le lecteur CD sur pause et a regardé le fruit de son travail. 14 masques. Au niveau de la bouche, inscrit en jaune sur fond noir, on peut lire « The Beast ». Jeudi 23 avril. Antoine se lève avec un sacré mal au crâne. Hier soir avec Léa, ils ont bu une bouteille et demie de blanc. Tout ce qu'on raconte à propos de l'influence du confinement sur l'alcoolisme. Serait-il vrai? Pour le moment, il s'en fout. Il ne se sent pas dans son assiette et Léa, partie bosser tôt ce matin, n'est même pas là pour le rassurer. Quelqu'un frappe à la porte. Le bruit résonne dans sa tête comme si on lui enfonçait un clou dans le front. C'est la voisine du 4e. Bonjour. Je voulais vous offrir ceci pour vous remercier. Elle lui tend un petit sac en plastique. C'est fait maison. Il y en a 2, hein, pour chacun. Allez, bonne journée. Merci. Ah ben, c'est ce qui s'appelle passer en coup de vent, pense Antoine, qui n'a même pas eu le temps de lui demander de quoi elle voulait les remercier. 2 morceaux de tissu tombent du sac en plastique sur la table de la cuisine. 2 masques, assez bien foutus. Sur le devant, il est écrit « The Beast, B-E-A-S-T. Mais sur l'un d'eux, le A du milieu a soigneusement été barré d'une croix au feutre noir indélébile.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 38e jour. Jeudi 23 avril, 17h. Antoine tourne en rond, seul chez Léa. Elle travaille aujourd'hui et il se dit une fois de plus qu'il n'aime pas ça, à savoir au Deleuze, exposé au virus et aux clients ingrats. Il attrape un livre de recettes dans la bibliothèque et décide de préparer des cookies pour passer le temps. Il n'en a jamais fait, mais ça ne doit pas être bien difficile. Dans sa poche, son téléphone vibre. Un message de Léa. Antoine sourit. Il s'attend à une cochonnerie, comme elle a l'art de lui en envoyer. Il y a 2 jours, c'était une photo de ses seins qu'elle avait prise dans les toilettes des employés. Mais là, ça n'est pas ça. C'est même tout autre chose. Je voudrais que tu rentres chez toi maintenant. Sans explication, juste ces 8 mots qui lui déchiquettent le cœur. Je voudrais que tu rentres chez toi maintenant. Antoine réfléchit. A-t-il fait quelque chose de mal ou dit quelque chose qui aurait pu la blesser? Mais même dans ce cas-là, on s'explique, ça ne peut pas être grave à ce point. Je voudrais que tu rentres chez toi maintenant. L'air lui manque. C'est comme s'il avait été chassé d'une fête sans motif, jeté sur le trottoir. Il essaye de l'appeler, pas de réponse. Il lui envoie un message. Qu'est-ce qui se passe? Pas de réponse. Antoine rassemble à la hâte quelques affaires et quitte l'appartement. En sortant de l'immeuble, il aperçoit l'homme qui est de nouveau là, sur le trottoir d'en face. La rage monte, il faut qu'il s'en prenne à quelqu'un. Il traverse la rue. Vous voulez quoi? Me coller une amende? Allez-y. L'homme le regarde stupéfait, puis il éclate de rire. Je crois qu'il y a un malentendu, monsieur. Je suis pas là pour vous. Vous êtes là pour quoi, alors? Pour la dame du deuxième, monsieur. Elle a reçu des menaces de mort. Ah? Voilà. Antoine bredouille. Bon, excusez-moi, et s'en va. Quelques minutes plus tard, il est enfin chez lui, dans son appartement, parce qu'il réalise que chez lui, maintenant, c'est chez Léa. Enfin, c'était. Les émotions se bousculent, l'embrouille, il a envie de casser quelque chose. Il rappelle Léa, toujours pas de réponse, mais au bout de quelques secondes, un SMS. Je peux pas te parler maintenant, rejoins-moi à la maison à 21h45. Léa, qu'est-ce qui se passe? Tu le sauras ce soir. Faut savoir patienter dans la vie. 21h40. Alors qu'il se dirige vers la rue de la Tulipe, un peu résigné à l'idée de se faire larguer, Antoine reçoit un autre SMS de Léa. Le flic est toujours là, attends-moi plutôt au coin de la rue sans souci. L'attendre? Elle sort? À cette heure-ci? Elle est folle? Quand elle le rejoint, elle lui prend la main avec des airs de conspiratrice, un sac sur le dos. On va où? Elle lui sourit de toutes ses dents. Tu vas voir. Tu es au courant qu'on est en confinement, qu'il y a un virus mortel, qu'on n'a pas du tout le droit d'être là. Elle se retourne, l'embrasse. Ah non, je savais pas. Elle est folle, se dit Antoine en la suivant. Ils arrivent dans un petit parc un peu caché, les pelouses sont vides évidemment, la nuit est claire et tiède, Léa s'assied, sort une bouteille de champagne et 2 flûtes de son sac à dos. Le bouchon saute, le champagne coule, santé. Mais Léa, on n'a pas le droit, tu sais ça. Si tout le monde faisait ça comme nous, ce serait... Elle pose un doigt sur ses lèvres et lève les yeux. Regarde. Dans le ciel, une pluie de lumière comme des étoiles filantes, mais suivant la même trajectoire régulière. Les satellites d'Elon Musk. Je voulais voir un spectacle avec toi, et avec celui-là. Alors en attendant la réouverture des théâtres. Et puis aussi, je voulais te demander. Elle hésite. Tu voudrais vivre avec moi après tout ça? Antoine réfléchit quelques secondes, puis répond. Tu le sauras demain. Faut savoir patienter dans la vie.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, vendredi 24 avril, le 41e jour. Léa a dit à Antoine, coupe la musique s'il te plaît, ça commence. Antoine s'est exécuté. Le Conseil national de sécurité était prévu à 17h. Antoine et Léa se sont installés devant la télévision, ils ont regardé, hébétés, les journalistes remplir un espace vide durant 1 heure, puis 2, puis 3. Là, ils ont craqué et ont fait l'amour. Après avoir joui, ils ont jeté un coup d'œil à la télé. Thomas Gadisseux expliquait que le conseil attendait probablement la fin d'une série flamande pour débuter la conférence de presse. Elle lui a demandé, comme elle l'avait déjà fait la veille, « Dis, tu voudras vivre avec moi après tout ça ?» Et comme la veille, il lui avait dit « Tu le sauras plus tard. Il faut savoir patienter dans la vie. » En bas de l'écran, une caméra fixe montrait des voitures allemandes garées dans la cour du palais d'Egmont. Antoine s'est énervé. « T'as vu ces connards avec leurs phares et leurs moteurs allumés? On leur a dit pour le climat ?» C'est vrai. En 2020, l'image avait quelque chose de vulgaire. Il a enchaîné. Et pour qui il se prenne à nous faire attendre comme ça? La question méritait en effet d'être posée. Dans tous les autres pays du monde, lorsqu'il devait s'adresser au peuple, le chef de l'État fixait un rendez-vous et apparaissait comme par magie à l'heure dite sur le petit écran. Partout dans le monde, oui. Mais pas chez nous. Non. Chez nous, comme si de rien n'était, le Conseil faisait à sa guise attendre 11 millions de personnes. Il y avait deux explications possibles à cela. Soit il ne savait pas que nous existions, soit il le savait, mais il s'en foutait parce que c'était eux, les élus, et pas nous. Antoine s'est demandé « Quelle image ont-ils d'eux-mêmes, ces gens-là, pour s'octroyer le droit de faire attendre 11 millions de personnes ?» Les membres du comité sont enfin arrivés, se sont installés en rang d'oignon. La photo était banale. Il y avait de toute évidence une carence en charisme. La première ministre, farde à la main, a dit « Bonsoir, mesdames et messieurs », puis elle a commencé à déballer son discours. « Il n'y a rien qui te choque ?» a dit Antoine. Non, à part sa coiffure, rien, non. Mais elle ne s'est même pas excusée. Elle a fait attendre 11 millions de personnes pendant plus de 5 heures. Elle a pris les médias en otage. Elle arrive et elle n'a pas un mot à ce sujet. Moi, au moins, si j'arrivais en retard comme ça, si j'avais fait patienter les gens 5h30, je m'excuserais. Je dirais, je sais pas, moi. Excusez-moi de vous avoir fait patienter. Alors que moi, j'ai pas Bac plus 7. Je suis garagiste, moi. Mais je sais ça. Que quand on fait attendre quelqu'un, on s'excuse. Et quand on fait attendre 11 millions de personnes, on s'excuse d'autant plus. Et puis il a ajouté, quel pays fait une communication de cette importance à 22h35, à part nous ? Léa n'a pas relevé, alors il a répondu à sa propre question. À part nous, aucun. Léa, ça lui plaisait qu'Antoine s'énerve comme ça sur tout, elle en était incapable. On lui avait appris depuis toute petite à ne pas rouspéter, à bien se tenir dans le rang, à obéir sans broncher. Alors s'indigner était une éventualité qui ne lui passait jamais par la tête. Et puis il y a eu les annonces, les trois phases. La phrase malheureuse sur le kayak, l'impasse malheureuse sur le confinement des aînés, les maisons de retraite, les pauvres, la priorité malheureuse donnée à l'ouverture des magasins plutôt qu'à la fête de nos mamans. Mais c'est normal, a dit Léa. Tu t'imagines, tous ces commerçants, ils sont en train de crever. Il faut que les gens travaillent s'ils veulent mettre à bouffer sur la table à la fin du jour. Antoine le comprenait. Mais il enrageait de tant de froideur, de contrôle, d'absence absolue, d'empathie, dans un discours qui aurait pourtant dû en déborder. De toute façon, il y a toujours des trucs qui vont pas avec toi. Oui, parce que c'est le cas, Léa. Il y a des trucs qui ne vont pas. Tu sais, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est d'avoir une voiture de société et de laisser tourner le moteur alors qu'on en crève. Le problème, c'est d'arriver 5 heures en retard et de ne même pas avoir l'élégance de s'excuser. Le problème, c'est l'inélégance. Le problème, c'est de savoir dire le mot kayak mais être incapable de parler des maisons de repos. Le problème, c'est d'avoir menti sur les masques et de désormais dire à la population qu'un bandana fera l'affaire sans avoir le courage d'avouer qu'on a menti. Le problème, c'est le manque de courage. Le problème, c'est le mensonge. Le problème, c'est d'annoncer l'ouverture des merceries parce que l'État est incapable de subvenir aux besoins de sa population, mais sans l'avouer, en le dissimulant. Le problème, c'est leur incapacité à accepter qu'ils sont, eux aussi, faillibles. Le problème, c'est d'annoncer 10 000 tests par jour, de ne jamais atteindre ce chiffre et oser sans sourciller annoncer que nous arriverons bientôt à 25 000. Le problème, c'est la démagogie. Le problème, c'est quand on vit dans un monde où l'on croit que tout le monde sait que B2B veut dire. Le problème, c'est le vase clos. Le problème, c'est l'électoralisme. C'est ce besoin carnassier, dès qu'on a connu le pouvoir, de vouloir le garder. Le problème, c'est la carrière qui empêche tout. Le problème, c'est de ne pas savoir que ça n'existe pas chez nous, des classes de 48 mètres carrés. Le problème, c'est d'oser appeler sa rentrée des classes une rentrée qui n'en est pas une, puisqu'elle ne va concerner qu'une infime partie des élèves un jour ou deux par semaine. Le problème, c'est de préférer ouvrir Vandenborg plutôt que célébrer ma mère. Le problème, c'est la vulgarité. Le problème, c'est oser dire que l'on va reculer la fête des mères d'une semaine pour qu'on puisse acheter des fleurs. Le problème, c'est de croire que la fête des mères, c'est acheter des fleurs. Et ignorer que c'est avant tout prendre la personne la plus chère au monde dans les bras et lui susurrer à l'oreille combien tu l'aimes. Le problème, c'est le costume quand on voit à l'œil nu que pour certains, il est trop grand. Le problème, c'est la communication, c'est s'offrir en spectacle pour mimer l'unité, alors qu'en réalité on se déchire. Le problème, c'est le spectacle. Le problème, c'est la dissimulation. Le problème, c'est de penser sans profondeur, puis de parler avec autant d'assurance. Le problème, c'est d'avoir oublié ou de n'avoir jamais su comment les autres vivent. Léa écoutait Antoine. Il y a eu un silence. Elle a dit « On peut réécouter de la musique ?»« Laquelle ?» a demandé Antoine. Bah celle de tout à l'heure. Celle-là ? Oui, C'est quoi? C'est la musique d'un film. Ah oui? Lequel? Le mépris.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 42e jour. Ça n'était pas très difficile de faire un masque, enfin ça ne l'était plus. Claire avait appris il y a un mois avec des tutos YouTube. Avant ça, elle n'avait jamais touché une machine à coudre, par principe. Il était hors de question de se conformer à ce que la société attendait d'elle. Faire des gosses, à manger, torcher la maison, rester présentable pour son petit mari, être discrète, silencieuse, éternellement jeune, séduisante sans être sexy, respectable sans être ennuyeuse. Toute petite déjà, en observant sa mère et sa grand-mère, elle avait fait un rejet virulent de ses dogmes de cinéma sur l'idéal féminin. Mais ils y étaient revenus par la fenêtre, sans même qu'elle s'en rende compte. Claire s'était installée avec Michel et son périmètre d'autonomie s'était restreint autour de sa cuisine. Michel l'avait fait vieillir d'un coup et plus magique encore, il l'avait télétransportée dans un autre espace-temps.